Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Il est à nouveau question de Zika et des épidémies en général. Nous sommes en compagnie du virologiste Jean-Claude Manuguera et nous sommes désormais en compagnie de Patrick Zilberman, professeur titulaire de la chaire d'histoire de la santé à l'école des hautes études en santé publique. Patrick Zilberman, par rapport à Zika, l'OMS en fait trop ou pas assez ?
Oui, alors c'est une chanson qui revient de manière insistante, comme d'habitude. Donc on est un peu là, quoi, de cette chanson justement, et l'idée que Margaret Chan est quelqu'un de brouillon qui passe d'un extrême à l'autre, où on fait rien, où on fait les choses de manière précipitée, tout ça est totalement éloigné. Rien n'est plus étranger à la réalité. En fait, Margaret Chan ne fait que son travail. Et son travail, c'est quoi? Elle avait commandé un rapport à un groupe d'experts de très haut niveau sur la gestion de la crise Ebola. Ce rapport lui a été remis le 7 juillet dernier. Et pour en deux mots, ce rapport disait quoi? Il faisait une critique et quatre recommandations. La critique, c'était évidemment le retard injustifié de la déclaration d'urgence mondiale, le 8 août, si vous vous souvenez bien, au moment d'Ebola. Et puis les recommandations...
Mais là, on avait beaucoup critiqué l'OMS.
Voilà, à juste titre d'ailleurs. Et les recommandations, c'était créer un niveau d'alerte intermédiaire en début de crise, de façon à ne pas être obligé d'aller aux extrêmes de la mobilisation d'un seul coup. Créer un centre OMS de préparation et de riposte, ce que Margaret Chan vient de faire, aussi dans le cas des situations d'urgence. Que l'OMS devienne l'autorité de référence pour la communication au sujet des urgences sanitaires. Là, la route est longue, il y a du travail à faire. Et que l'OMS acquiert enfin une culture de la décision rapide, ce que, évidemment, à quoi elle était totalement étrangère. Et donc, Chan, aujourd'hui, s'applique à précisément mettre en œuvre ces recommandations des experts. Mais comment ? En faisant cette déclaration sur la situation d'urgence sanitaire de portée internationale. Zika, donc, correspondrait à cette expression qui est précisément définie par le règlement sanitaire international, qui est un traité qui oblige les États, qui contraint les États. C'est dans l'annexe 2 de ce règlement, page 57-59 pour les curieux, de la deuxième édition en français de 2005, et est qualifié de situation d'urgence sanitaire de portée internationale, un événement qui doit satisfaire à au moins deux des quatre critères suivants. D'abord, possibilité de répercussions graves sur la santé publique du pays concerné. Deuxièmement, être un événement extraordinaire, inattendu, inhabituel, etc., imprévu. Troisièmement, comporter des risques de propagation internationale. Et quatrièmement, entraîner des risques de restriction sur les voyages et les échanges internationaux. Or, on peut dire que Zika, aujourd'hui, satisfait au moins à deux de ces critères, sinon à trois. Et donc, la motivation de cette qualification d'urgence sanitaire de portée internationale, c'est l'impact sur d'autres États, limitrophes ou éloignés, et la nécessité de mettre en œuvre une action coordonnée à l'échelle internationale pour lutter contre l'épidémie.
Malgré tout, Patrick Zilberman, lorsqu'on se pose ce type de questions, lorsque les néophytes se posent ce type de questions, c'est aussi parce qu'on a été échaudé par toute une série de crises sanitaires, le H5N1, il y a eu des campagnes de vaccination, il y a eu des alertes données, on parle à nouveau de la grippe aviaire, et on soupçonne, je sais que vous aimez quand je vous pose ce genre de questions, on soupçonne les laboratoires pharmaceutiques d'avoir des logiques capitalistiques très nettes, parce que évidemment leur intérêt c'est de vacciner à tour de bras tout le monde, on l'a vu pour la grippe H5N1.
Oui, non, mais c'est vrai, vous avez raison, les firmes pharmaceutiques, ce ne sont pas des philanthropes, ce sont des capitalistes dont le but est le profit. Il n'y a pas de problème. Seulement, faire de l'OMS un tout petit bébé en face de ces firmes pharmaceutiques et faire des États, des enfants qui auraient peur de recevoir la fessée de la part de Novartis ou de GSK ou de Sanofi, faut pas non plus trop pousser, quoi.
Non, mais sans trop pousser, on peut se dire qu'il y a une perception des risques. Aujourd'hui, les gouvernements sont tétanisés par la crainte de mal faire, autrement dit de ne pas faire assez. Et du coup, avec le principe de précaution, on peut considérer qu'il faut faire absolument ceinture et bretelles et acheter par exemple 100 millions de doses de vaccins pour un pays qui ne comporte que 65 millions d'habitants, si vous voyez de quoi je veux parler.
Oui, mais là on n'en est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, on en est au fait qu'on s'interroge sur l'augmentation soudaine des cas de microcéphalie et troubles neurologiques. Est-ce que c'est lié ou pas lié au virus Zika? Et puis, deuxième question, c'est un débat qui est émergent au Brésil aussi, c'est est-ce que cette augmentation des cas de microcéphalie est aussi importante qu'on le dit? Puisqu'on ne connaît pas grand-chose sur Zika, est-ce qu'on ne ramasse pas trop dans nos filets? Est-ce qu'on va jusqu'à des chiffres qui sont absolument incroyables, 26 fois la moyenne normale, etc., 35 fois la moyenne normale, etc.
C'est un débat effectivement important. Jean-Claude Manuguera, vous êtes virologiste, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas de compréhension véritable du lien entre la microcéphalie et le virus Zika. On sait que le Brésil est censé être touché avec 1,5 million de cas pour le virus Zika selon l'OMS. Il y aurait 404 cas de microcéphalie et 3600 cas suspects. Est-ce que du point de vue statistique, cela permet d'avoir des certitudes aujourd'hui ?
Non, alors aujourd'hui, il n'y a absolument aucune certitude. Comme je disais tout à l'heure, c'est un virus qu'on connaît depuis longtemps, mais qu'on connaît mal. Et c'est un virus qui n'a jamais infecté autant de personnes. Donc chacune des personnes infectées a sa propre histoire immunologique. Tous les virus et bactéries qu'il a rencontrés avant, les parasites, il a aussi son propre fond génétique qui est variable d'une zone géographique à l'autre et dans une zone géographique en fonction des différentes populations et ethnies qui existent. Et donc on va avoir des surprises et certaines seront bonnes, certaines seront mauvaises. Pour l'instant, c'est très difficile de décrypter exactement les liens entre ce qui est observé et l'infection virale. Je crois que, encore une fois, pour revenir sur le vaccin, on en parlait tout à l'heure, le vaccin, même s'il y a des travaux qui démarrent et qui vont probablement bénéficier de ce qui a été fait sur le chikungunya, le vaccin n'est pas pour demain. Et c'est vrai que face à une maladie comme ça, on n'a pas de médicaments, on n'a pas de vaccin. Il faut mettre le paquet. Alors c'est vrai que mettre le paquet sur la prévention, j'en parlais tout à l'heure, contre les vecteurs, c'est très très important. Et là, effectivement, il y a toute une éducation sanitaire qui doit être faite, dans des pays d'ailleurs où cette éducation existait déjà pour d'autres maladies comme la dengue par exemple. Donc il faut aller plus loin, et là il y a des politiques publiques qui doivent être mises en place, des politiques qui n'ont rien à voir avec l'industrie pharmaceutique, mais sont des politiques d'éducation de la population pour se prémunir de la pullulation du vecteur.
Oui, c'est ce que recommande dans sa déclaration du 1er février le comité d'urgence réuni par Margaret Chan, effectivement, comme le dit Jean-Claude Manuguera, de mettre le paquet sur les mesures de prévention qui sont des mesures simples à la portée de tout le monde.
Si l'on veut revenir à l'origine de toutes ces questions, face aux épidémies, Patrick Zilberman, on a avant tout la question de la représentation des risques et du nouveau facteur, ou plutôt du nouveau dogme qui est arrivé dans les démocraties occidentales, qui est celui du principe de précaution. Qu'est-ce que ça donne comme cocktail ?
Alors, ça donne un cocktail bizarre, parce que le principe de précaution peut être très utile. Là, par exemple, on appelle à prendre des précautions, notamment pour les femmes enceintes. Il peut être aussi tout à fait paralysant. Le principe de précaution a connu sa propre caricature. Sa caricature, c'est la doctrine du 1% de Dick Cheney, de triste mémoire, qui considère qu'à partir du moment où vous avez une tendance, une possibilité qui se dégage, elle doit être considérée comme étant sûre à 100%, même si la probabilité n'est que de 1%. Donc, voilà le principe de précaution. C'est assez ironique que ce soit un Américain de droite, pour ne pas dire de droite de la droite, qui les proposait. Mais ça peut être effectivement quelque chose d'assez paralysant. Maintenant, le rôle de l'OMS, le rôle des organisations internationales, c'est bien de protéger les populations sur le plan biologique et sanitaire, et donc de prendre un certain nombre de précautions.
Mais ce principe de précaution, est-ce qu'il vous paraît finalement mal formuler les choses, conduire à mal formuler les choses ?
Mais je crois que l'erreur a été de le constitutionnaliser en France. Ça n'avait pas grand-chose à voir avec la Constitution. L'erreur, c'est effectivement d'en faire un espèce de dogme rigide Et c'est malheureusement ce à quoi on a été, qu'on est conduit par, non seulement par cette constitutionnalisation malheureuse, mais en plus par un certain nombre d'idéologies écologistes qui sont parfois assez malvenues.
C'est-à-dire, et expliquez-moi.
Écoutez, vous avez chez les écologistes, disons, une certaine tendance au conservatisme. Le conservatisme consiste à dire que tout ce qui est nouveau, toute innovation, est mauvaise par définition. Il y a ça, il y a un fond chez les écologistes qui est ce fond très conservateur.
Enfin, il y a un fond qui est aussi un fond informé des dérives passées et des questions que l'on peut voir avec, par exemple, on en parlait dans le journal de 7 heures, l'utilisation des intrants dans l'agriculture, des engrais. Oui, on voit aussi que tout ceci ne vient pas de nulle part.
Non, absolument pas. Ça, c'est effectivement quelque chose qui s'est construit petit à petit sur l'idée de risque, la gestion des risques, la gouvernance des risques depuis l'époque de la, disons, de la terreur nucléaire, c'est-à-dire depuis les années 50.
Brice Couturier.
Est-il vrai que dans le domaine de la biogénétique et dans quelques autres, nanotechnologies, etc., ce principe de précaution pousse des chercheurs français de plus en plus nombreux à franchir l'Atlantique ou la Manche et aller faire leurs travaux ailleurs parce que le principe de précaution simplement bloque la recherche ? Qu'en est-il ?
Ça faudrait le demander à Jean-Claude Manuguera, mais moi, je n'ai pas l'impression. Hein.
Jean-Claude Manuguera, votre impression sur cette fuite des cerveaux que soupçonne...
C'est d'une question difficile. C'est clair que à cause du principe de précaution, il y a des réglementations qui ont été mises en place en France qui sont extrêmement difficiles à appliquer, extrêmement coûteuses, sans étude d'impact de ces réglementations sur les capacités de recherche et sur le coût pour ces recherches. Et il est clair que nous avons de ce côté-là un handicap et une perte de compétitivité assez grande par rapport aux voisins. Et tout ça est lié notamment sur la prévention du bioterrorisme qui a impliqué un grand nombre de réglementations difficiles, très difficiles et très coûteuses à appliquer.
Alors justement, on va revenir sur ces différents points, mais avant d'en venir au bioterrorisme, Patrick Zilberman, on voit qu'on a en France un certain nombre de décisions prises au sujet de la grippe aviaire, prises au sujet de la grippe tout court, j'en parle puisqu'elle a décimé la rédaction. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes au lit du fait de la grippe. Est-ce que vous pensez que les autorités sanitaires ont pris les bonnes décisions à chaque fois en France quant à ces risques ?
Si vous parlez de la campagne de vaccination en 2009, il y a eu quelques erreurs quand même, faut le reconnaître.
Lesquelles ?
L'erreur fondamentale, c'est d'avoir organisé ça de manière, je dirais, préfectorale. Voilà, on prend un gymnase, on réquisitionne quelques médecins, quelques jeunes médecins, des internes, etc., ou des médecins retraités, et puis on pense que les gens vont se vacciner. Vous savez ce qu'a dit Margaret Chan à ce propos-là ? Elle a dit un jour, au moment de cette crise... La directrice de l'OMS, oui. Je n'aurais jamais cru que les gens ne se vaccineraient pas alors qu'on leur recommandait de le faire. Bon, on n'est plus à cette époque, quoi. C'est peut-être dommage, on peut le regretter, mais on n'y est plus.
D'autant que Caroline Eliashef en a parlé dans sa chronique il y a quelque temps, on a aujourd'hui de plus en plus de soupçons, de plus en plus de craintes quant au vaccin.
Oui, mais alors ça, c'est vraiment un autre problème. Là, on rentre dans le désamour, si vous voulez, des Français vis-à-vis des vaccins. C'est une affaire compliquée. Certains voudraient mettre toute la faute sur le dos des anti-vaccins. C'est leur faire beaucoup d'honneur. Parce que les anti-vaccins sont tout à fait marginaux. Ils font du bruit à certains moments. Ils l'ont fait pendant la grippe de 2009 via, par exemple, Le Parisien, qui leur a servi de caisse de résonance, via les réseaux sociaux aussi, bien sûr. Et ils continuent de le faire comme ça. Mais enfin, il faut pas exagérer. Ils ne représentent pas une force réelle. Le problème, c'est que...
Enfin, dans les statistiques, le nombre de personnes qui ne se vaccinent plus...
Ça dépend du vaccin. Ça dépend du vaccin. Le vaccin contre la grippe a toujours été mal aimé parce qu'on considère que la grippe est une maladie bénigne, finalement. En 3 jours au lit avec des grogues et puis c'est terminé. Le vaccin contre l'hépatite B a subi une campagne de presse et une erreur de gestion politique monumentale.
Pourquoi ?
Parce que en 98, Bernard Kouchner étant aux commandes du ministère de la Santé, Le vaccin contre l'hépatite B a été soupçonné par un certain nombre de groupuscules de faire le lien, enfin de faire le lit, si vous voulez, de la sclérose en plaques. Et à partir de ce moment-là, s'est déployée une campagne de presse avec des équivalents en Angleterre, avec des équivalents en Allemagne. Et cette campagne de presse a obtenu un certain nombre, enfin une certaine résonance. Et Bernard Kouchner a pris la très mauvaise décision consistant à interrompre la vaccination des scolaires à ce moment-là.
Mais alors chez les virologistes, Jean-Claude Manuguera, sauf erreur de ma part, on travaille notamment sur des statistiques, on travaille sur des risques et des gestions de risques. Est-ce que d'après vous, face à ces différentes polémiques qui reviennent sur l'efficacité des vaccins, les Français... plus généralement les humains, ont-ils tort d'être sceptiques et d'avoir peur des vaccins ?
Moi, ce qui me trouble, c'est dès qu'on a une nouvelle crise et qu'on n'a pas de moyens pour lutter à part des moustiquaires et des répellents et de lutter contre les eaux stagnantes, on dit quand est-ce qu'on aura un vaccin ? Donc, on réclame un vaccin dès qu'il y a une nouvelle crise. Et quand il y a le vaccin qui est efficace, eh bien, il y a des rumeurs qui disent que ça ne marche pas, qu'il y a des effets secondaires. Je crois que effectivement, un vaccin est un médicament, que comme tout médicament, il peut avoir des effets secondaires et qu'il faut se poser la question du bénéfice-risque. Et donc lorsqu'on met en balance une hépatite B par exemple et le risque hypothétique qui en fait est très hypothétique, et bien là en fait la décision est prise. C'est vraiment ça au cas par cas qu'il faut faire.
Et il n'y avait pas seulement la question des effets secondaires, il y avait aussi la question des additifs et notamment de l'aluminium présent dans les vaccins qui était souligné.
Mais ça c'est lié aux effets secondaires parce que si l'aluminium ne crée pas d'effets secondaires, on se fiche qu'il y ait de l'aluminium.
Mais il était substituable.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ensuite, il y a d'autres adjuvants qui ont été mis. L'alun n'est pas un très très bon adjuvant, ça c'est clair.
Non, mais vous pouvez substituer Patrice tout ce Zilberman. Que vous voulez. Les sels d'aluminium sont utilisés dans la vaccination depuis plus de 80 ans. Des millions et des millions de personnes ont été vaccinées avec des vaccins comportant un adjuvant au sels d'aluminium sans aucun problème. Mais en France, il y se passe quelque chose de particulier, c'est que le sel d'aluminium a une appétence particulière pour le deltoïde français. Parce qu'il n'y a pas l'équivalent de la...
Il y a une forme d'ironie dans votre remarque.
Oui, je crois, oui. Il n'y a pas l'équivalent en Allemagne, il n'y a pas l'équivalent en Angleterre, etc. Donc, si vous voulez, il y a quand même, je crois, ce qu'on peut appeler une forme d'ignorance de l'opinion qui est savamment entretenue d'un côté comme de l'autre. Vous pouvez substituer, vous pouvez mettre des adjuvants lipidiques à la place des sels d'aluminium. Les gens vous diront toujours, adjuvant, attention, c'est le diable. Juste 30 secondes. Or, les adjuvants sont absolument indispensables. En 2009, ils avaient été réclamés par les sociétés savantes pour que leurs malades, les immunodéprimés par exemple, fassent une réaction immunogène plus importante lors de la vaccination.
Caroline Eliachev.
Oui, je voudrais comprendre plus précisément votre opinion par rapport à l'OMS. Parce que d'un côté, vous dites les critères sont remplis, ils ont bien agi. Et d'un autre côté, vous êtes assez critique sur des gestions passées par l'OMS. Donc, autrement dit, est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez que la position de l'OMS est la bonne par rapport à une affection qui ne tue pas ? Et qui, pour le moment, n'a pas quand même envahi le monde.
Patrick Zilberman.
Alors, moi, je pense qu'effectivement, dans le passé, oui, ils ont fait des erreurs, des très grosses erreurs. Ça, il n'y a aucun doute, dans un passé récent, en plus. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont raison d'agir comme ça ? Margaret Chan applique le règlement sanitaire international. Je suis désolé, c'est son rôle. Elle est directrice générale de l'OMS.
Et puis, pour prolonger la question, ce règlement est-il adéquat ?
Oui, le règlement est adéquat. Il est même, selon le rapport des experts de juillet 2015, il est même insuffisamment appliqué.
Patrick Zilberman, dans Tempête microbienne, le livre que vous avez publié aux éditions Gallimard, vous évoquiez le fait que notre perception des risques liés aux maladies et liés aux épidémies avait été fortement influencée par la crainte d'un bioterrorisme aux États-Unis. Donc là, on est dans l'époque postérieure au 11 septembre 2001. Or, il se trouve que votre livre a été rattrapé par l'actualité puisque le 13 novembre dernier, le Premier ministre Manuel Valls a évoqué, on n'a pas encore très bien compris pourquoi, mais de possibles risques de bioterrorisme. Expliquez-nous en quoi le cas américain peut nous aider à comprendre comment a évolué notre regard sur la maladie.
Vous dites que mon livre a été rattrapé, c'est vrai. Mais vous savez, comme disait un personnage de Drôle de Drame, à force d'écrire des choses horribles, elles arrivent. Le cas américain est différent du cas européen, si vous voulez. En Europe, le terrorisme, c'est d'abord les explosifs. C'est d'abord les explosions, les armes, etc. Les Américains, depuis 1995, c'est curieux parce que c'est depuis, en fait, le métro de Tokyo, qui était un attentat chimique et non pas biologique.
C'était la secte Aum qui, à l'époque, Chirikyo, avait mis un gaz.
Voilà, un gaz sarin. Depuis ce moment-là, les Américains ont pris l'affaire très au sérieux et ont, peut-être à mauvais escient, mais en tous les cas pour eux, le bioterrorisme, c'est quelque chose qui est destiné à durer. Ce n'est pas un phénomène marginal, ni un phénomène passager, c'est quelque chose qui est là pour durer, une arme terroriste qui sera un jour ou l'autre employée. Et par conséquent, tout vient de là, si vous voulez. La grande différence entre les États-Unis, enfin entre l'Amérique du Nord, parce que les Canadiens sont aussi dans cette affaire, mais l'Amérique du Nord et l'Europe, c'est précisément cette différence d'interprétation des armes possibles, des terroristes. Pour nous, c'est d'abord les explosifs, le classique, si vous voulez. Pour les Américains, le bioterroriste n'est pas explosif.
Alors, qu'est-ce que cette crainte a déclenché aux États-Unis ?
La crainte a déclenché aux États-Unis. D'abord, elle a déclenché, elle a permis l'élaboration et la mise en œuvre de tout un arsenal administratif, juridique, légal, etc., très très important. Depuis, tout s'est joué, si vous voulez, au cours du second mandat de Bill Clinton. C'est pas Bush qui a tout un... Bush s'est contenté de continuer sur la lancée de Clinton de 95 à 2000. Elle a aussi, si vous voulez, haussé la santé publique à un statut qu'elle n'avait jamais connu. Auparavant, c'était un amusement pour crétins qui n'avaient pas réussi l'internat. Aujourd'hui, c'est complètement différent.
Je me tourne vers le virologiste Jean-Claude Manuguera. Est-ce qu'un risque bioterroriste vous paraît-il, non pas sur le plan géopolitique, puisque ça n'est pas de votre domaine de compétence, mais du point de vue pratique, est-ce que c'est facile de faire un attentat avec des virus?
Alors, je vais vous répondre par une pirouette d'abord, et après je vais répondre directement. Je crois que le plus grand bioterroriste qui existe sur Terre, c'est la nature. Elle arrive très bien à faire des choses, des passe-passe, nous surprendre, nous prendre à contre-pied. C'est ce que ferait un bioterroriste. Je dirais, pour répondre, non, j'y crois pas beaucoup, parce que la difficulté... alors après, dans bioterroriste, il y a bio, puis il y a théoriste, c'est-à-dire faire peur. Alors, on peut faire peur avec très peu de morts. Je vais pas donner des idées, mais effectivement, on peut faire des choses très très simples. Enfin, aujourd'hui, jusqu'à ce jour, combien de personnes sont mortes de bioterrorisme?
Il y a eu un cas aux États-Unis. Patrick Zilberman a eu une infection dans un restaurant.
Oui, alors c'est ça. D'attentats biologiques, on en a comptabilisé très peu, mais ils ne sont pas revendiqués, ou bien ils sont difficiles à détecter. On en connaît vraiment un. Dans les années 80, un snack bar aux États-Unis sur la côte ouest a été empoisonné par une secte mystique. Il y a eu beaucoup de gens malades, pas de morts.
Bon, ce n'est pas une raison pour laquelle il ne pourrait pas y en avoir dans le futur, mais du point de vue virologie...
C'est extrêmement complexe parce qu'en fait, il faut... Alors, c'est pas toujours très difficile de produire les agents, mais il faut les vectoriser si on veut faire des armes, ou alors il faut pouvoir les administrer si on au contact. Et donc, c'est à la fois très simple et très compliqué, et je pense qu'il y a d'autres méthodes qui sont beaucoup plus faciles pour faire peur.
N'en parlez pas.
Merci beaucoup de nous avoir donné votre vision sur le port de la Zika. Et on continue avec un peu de musique. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Patrick Zilberman, dans lequel j'ai appris beaucoup de choses. Tempête microbienne chez Gallimard.